Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La première ministre française est en visite officielle à Alger. Elisabeth Borne est arrivée cet après-midi en Algérie. Une visite jusqu'à demain pour concrétiser avec son homologue algérien le partenariat conclu entre les présidents des deux pays en août dernier. Notre invité sera Kader Abderrahim, maître de conférences à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE. Deux adolescents palestiniens ont été tués hier dans un raid israélien en Cisjordanie occupée. Plus tard dans la soirée, une femme soldat israélienne a été tuée dans une attaque armée à Jérusalem-Est. La guerre en Ukraine, au moins 17 personnes ont été tuées ce matin dans des bombardements sur la ville de Zaporijjia dans le sud du pays. Regard dans votre journal sur le futur projet de loi sur l'immigration annoncé par Emmanuel Macron. Nous l'évoquerons avec le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui était ce week-end l'invité de Pluriel. Les pénuries de carburant s'étendent en France et les grèves se poursuivent dans les raffineries. Total Energy se dit prêt à négocier rapidement si les blocages cessent. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Marie-Noëlle Arras, co-rédactrice en chef de la revue Étoile d'encre, une revue de femmes en Méditerranée, extrait dans votre journal. Elisabeth Borne est en Algérie, son premier déplacement à l'étranger en tant que première ministre. Elisabeth Borne est accompagnée de près de la moitié des membres du gouvernement. Il s'agit de continuer de ressouder les liens entre la France et l'Algérie et de concrétiser avec son homologue algérien le partenariat conclu entre les présidents des deux pays en août dernier. Sur ce partenariat, entretien avec Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE.
La première ministre va tenter de relancer ce comité intergouvernemental de haut niveau, CIHN, qui ne s'était pas réuni depuis 2017. Et il semblerait qu'il y ait une volonté politique côté algérien pour retrouver à la fois une vitesse de croisière, mais surtout pour donner une certaine stabilité à cette relation bilatérale. Ça va être un peu l'exercice pratique, les travaux pratiques pour la première ministre et la délégation ministérielle. Ce sera un peu de tenter de mettre en œuvre les directives que le président de la République et les orientations que Emmanuel Macron a données lors de la visite officielle le 25 août à Alger. Maintenant, tout l'enjeu est de savoir si, côté algérien, il y a d'abord la volonté et deuxièmement si on peut avoir une véritable stabilité avec une vision à moyen terme et non pas que la relation redevienne erratique et qu'elle soit fluctuante.
Des tensions ont eu lieu ces derniers mois entre Paris et Alger. Cette visite de la première ministre, plus d'un mois après celle du président français à Alger et à Oran, c'est le signe d'un réchauffement?
Oui, très nettement. Déjà, on l'a senti dans les comportements, les attitudes des deux chefs d'État algériens et français lors de la visite à Alger du président français. On a vu qu'il semble s'être établi entre les deux hommes une véritable complicité, ou en tout cas, à tout le moins, une volonté de regarder, de construire un avenir. Maintenant, là encore, je crois que tout est quand même conditionné à la stabilité institutionnelle du côté de l'Algérie afin de pouvoir mettre en œuvre des véritables projets industriels.
Justement, au menu de ce déplacement figure un forum d'affaires algéro-français. Quel est l'état de la coopération économique aujourd'hui entre Paris et Alger et comment cette coopération évolue-t-elle?
La coopération, elle est excellente depuis toujours. La France reste le premier investisseur étranger en Algérie, même si la Chine est devenue le premier fournisseur depuis plus d'une décennie de l'Algérie. Donc, il y a un handicap que la France doit de rattraper, surtout que les choses évoluent vite, qu'elles évoluent pas toujours dans le sens qui a les faveurs de Paris. Et on voit que l'influence française est en train de perdre du terrain. Et par conséquent, il faut impérativement que la France trouve un nouveau projet à faire valoir auprès de ses partenaires algériens, mais plus généralement auprès de tous, de l'ensemble de ses partenaires du Maghreb, parce que c'est pas seulement l'influence de la France, mais c'est également le rayonnement français à l'international qui se joue là, en ce moment, compte tenu des répercussions de la guerre en Ukraine.
Vous dites que la France perd du terrain par rapport à quel pays ?
Elle perd du terrain par rapport à la Chine sur le plan commercial, économique aussi. Et puis il y a d'autres acteurs qui ont émergé depuis une petite décennie, comme la Turquie, très présente, très implantée au Maghreb. La Russie, évidemment, on ne peut pas l'ignorer, qui est le premier fournisseur militaire de l'Algérie depuis fort longtemps, donc une relation stratégique, et puis vont venir dans ce sillage compte tenu du nouvel ordre mondial qui va émerger conséquemment à la guerre en Ukraine et qui va inévitablement amener d'autres acteurs, et donc ce seront autant de concurrents pour la France.
La question de l'énergie est bien entendu un élément particulièrement important aujourd'hui, et cela entre dans le cadre de ces relations entre Paris et Alger.
Oui, comme vous le savez, l'Algérie est un producteur de gaz important, même si évidemment elle n'a pas les capacités de production que peuvent avoir la Russie ou le Qatar, premier et deuxième producteur mondial de gaz. Toutefois, l'Algérie a tout de même une véritable capacité à pas à compenser ni à se substituer aux deux pays que je viens de citer. Mais évidemment, la proximité géographique, la langue, la proximité historique vont probablement faire que l'Algérie va devenir un fournisseur énergétique très important pour la France et peut-être plus important que ce qu'il n'a jamais été. Ceci étant, là aussi se posent des questions industrielles parce qu'il faut être en capacité de renouveler et ses capacités de production et de moderniser tout son potentiel industriel. Donc il y a du pain sur la planche, il y a du travail pour tout le monde, mais la France doit se montrer sous son meilleur profil. Et comme vous le disiez, il y a quand même des contentieux, notamment sur la question des visas, qui pour le moment constituent un frein.
Quelle est la volonté de chacune des parties sur la question des visas ?
L'Algérie souhaite que tout cela soit revu à la hausse. La France, elle, à la fois pour des raisons de politique intérieure, a, pour parler crûment et vulgairement, resserré la vis. Mais pas seulement en Algérie, hein, sur tout le Maghreb. Le Maroc et la Tunisie sont également concernés. Et puis, il y a l'enjeu de la délivrance par les pays du Maghreb de ce qu'on appelle les visas consulaires concernant les personnes qui font l'objet d'une circulaire d'expulsion et qui devraient être repris par leur pays d'origine. Comment ça coince entre les deux rives de la Méditerranée sur cette question-là de la délivrance des visas consulaires afin que ces pays récupèrent leurs ressortissants qui font l'objet d'une ordonnance d'expulsion et d'éloignement. Donc voilà, c'est cette manière, cette voie qu'a choisi la France pour tenter de faire pression sur les pays du Maghreb, compte tenu d'une situation à la fois politique et sécuritaire en France qui reste quand même une des grandes préoccupations des dirigeants français.
Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE, son dernier ouvrage « Géopolitique de l'Algérie » aux éditions Bibliomonde. Deux adolescents palestiniens ont été tués par balle hier. 11 autres palestiniens ont été blessés. Cela s'est passé lors d'un nouveau raid de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Plus tard dans la soirée, une femme soldat israélienne a été tuée dans une attaque armée à Jérusalem-Est. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient se dit alarmée par la détérioration de la situation sécuritaire et l'intensification des affrontements armés entre Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La guerre en Ukraine, au moins 17 personnes ont été tuées ce matin dans des bombardements sur la ville de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine. Jeudi, cette ville avait déjà été la cible de 7 missiles, tuant également 17 personnes. Les frappes menées aujourd'hui interviennent au lendemain d'une énorme explosion attribuée par Moscou à un camion piégé sur le pont de Crimée, une infrastructure clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule annexée en 2014 au détriment de l'Ukraine. L'invité de Pluriel ce week-end était Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, auteur du livre Seine-Saint-Denis, la République au défi aux éditions de l'Aube. Lors de cette émission, il a évoqué le futur projet de loi sur l'immigration annoncé par Emmanuel Macron. Stéphane Troussel.
Bon, d'abord, sur ce sujet de l'immigration, il faut que la France, elle assume ce qu'elle est. La France, depuis toujours, contrairement à d'autres pays européens, elle s'est construite par des vagues d'immigration successives. C'est ce qui fait notre identité. Non, nous n'avons pas tous nos ancêtres gaulois. C'est une réalité de notre pays. C'est sa singularité, c'est sa force, c'est son énergie. Donc d'abord, revendiquons-le. Deuxième élément, la France est en train de vieillir. Le continent européen est en train de vieillir. D'autres pays qui n'étaient pas des terres d'immigration, je pense à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, qui étaient des terres d'émigration, eh bien, sont en train de devenir des terres d'immigration, y compris face à leur affaiblissement démographique. Donc, et le troisième sujet, c'est ce qui se passe de par le monde, compte tenu des désordres du monde. Les guerres, les violences, les désordres climatiques. Imaginez que cet été, il y a eu 50 millions de déplacés à cause des inondations au Pakistan. 10 ans avant, il y avait 38 millions de déplacés pour des inondations sur toute la planète. Donc, il faut dire la vérité à nos concitoyens. Cette question de l'immigration, des mobilités, des mouvements de population, compte tenu de notre affaiblissement démographique en Europe, compte tenu de l'explosion démographique en Afrique, ça va être une question, un défi qui est devant nous. Et donc, d'abord, il faut que les responsables politiques disent la vérité aux Français, cessent le discours mensonger, dangereux, irresponsable, qui consiste à dire qu'on pourrait, je ne sais pas quoi, entourer le pays de barbelés et de gérer les flux dans les préfectures pour empêcher l'immigration. Ce n'est pas vrai. Quand des hommes et des femmes on voit leur maison inondée, leur région dévastée, qu'ils ne peuvent plus y vivre, ils vont partir sur les routes dans les mers pour essayer de fuir la misère et les désordres climatiques. Donc assumons cette question. Et ensuite, une fois qu'on a dit la vérité, il faut accueillir et il faut bien accueillir en organisant l'accueil. Oui, il faut dire la vérité. Et pour cela, il faut faire, je crois, des choix d'organisation de cet accueil. Et donc, non, on ne peut pas toujours ajouter des difficultés, des mener une bonne politique d'intégration, d'insertion réussie dans des territoires qui affrontent déjà des difficultés.
Le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, auteur de Seine-Saint-Denis, la République au défi aux éditions de l'Aube. Il était l'invité de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière. Il est très difficile de trouver de l'essence dans plusieurs régions de France, dont l'Île-de-France et les Hauts-de-France. 3 des 6 raffineries françaises restent à l'arrêt. Cela provoque des ruptures d'approvisionnement dans les stations-service. Les grévistes ont voté aujourd'hui la poursuite du mouvement. La CGT de chez Total Énergie et Esso a proposé hier de limiter ses revendications à la question des hausses de salaire. Total Énergie s'est dit cet après-midi prêt à négocier rapidement, mais si les blocages cessent. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Marie-Noëlle Arras, co-rédactrice en chef de la revue Étoile d'encre, une revue de femmes en Méditerranée dont le dernier numéro a pour titre Algérie, 60 ans, extrait de cette émission.
Là, on fait l'anniversaire des 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Hein. Donc, juste après la guerre, ça fait 60 ans que l'Algérie est indépendante. Mais nous, les femmes qui avons créé cette revue, Maïssa B, Beja Traversac, Edith Adri et moi-même, nous l'avons créée non pas après la guerre d'Algérie, qui était donc une guerre de colonisateurs à coloniser, mais après les 10 années de guerre fratricide entre les Algériens. Et donc, pendant ces années où il était très difficile de vivre en Algérie tout en restant vivant, mais aussi bien les Algériens que les étrangers, nous avons été un grand nombre d'ailleurs de femmes qui se sont soit exilées, soit repliées, comme moi en tant que Française, à Montpellier. Et à partir de là, on a fait une grande action pour les femmes d'Algérie, pour faire connaître la culture algérienne. Et quand la paix, entre guillemets, est revenue, en 2000, on s'est dit qu'il faut aller plus loin. Et donc, on a décidé, Maïssabé venant de publier son premier roman, on a décidé de donner la parole aux femmes à travers une revue. Et très vite, on a décidé que ce ne serait pas seulement une revue, mais une maison d'édition.
Marie-Noël Arras, vous nous avez dit que vous aviez été obligée de quitter l'Algérie.
En fait, mon histoire personnelle importe peu, mais je suis partie en Algérie en 1978 pour y vivre avec mon mari et mes trois enfants. Donc, j'ai vécu là-bas, à Sidi Bel Abbès, pendant de nombreuses années. Et au moment, donc, en 92, si je ne m'abuse, où les islamistes ont décrété que toute personne étrangère était responsable de sa mort, si elle restait sur le sol algérien, à Sidi Bel Abbès, donc, il y a eu le premier étranger français à être tué. Donc, sur la route entre Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchène, où il prenait des métrés. Et donc, c'était franchement dangereux. J'avais mes deux filles étudiantes à Montpellier, donc je suis revenue à Montpellier en pensant que ça durerait peut-être 2 ans. Et en fait, ça a duré plus de 5 ans où j'ai pas pu remettre les pieds en Algérie. J'enseignais le français langue étrangère et les derniers mois où on a fait des cours à l'école de française de Bel Abbès, il y avait un policier algérien qui nous protégeait derrière la porte avec un revolver.
Marie-Noël Arras, co-rédactrice en chef de la revue Étoile d'encre, elle est l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Le philosophe et sociologue Bruno Latour est mort. Il est considéré comme l'un des plus grands intellectuels contemporains français. Bruno Latour était âgé de 75 ans. Il a été l'une des figure de la pensée écologiste. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.